sûr. Mais ce qui m'a laissé aussi, lui, c'est sa façon de gérer la famille. Ma femme pourra être là pour en témoigner. C'est la façon dont on gère la famille. C'est plus patriarcal. C'est-à-dire que ma femme a eu la chance, je ne sais pas si c'est une chance, de ne pas avoir à travailler pendant un certain temps parce que j'arrive à assumer le rôle de pourvoyeur pour toute la famille. J'ai cette chance-là, Dieu m'a béni là-dessus pour ce travail. Et donc, mon rôle, comme celui de mon père auparavant, c'est simplement fournir. Fournir les besoins nécessaires à la famille pour l'éducation, pour élever Maria Antonia, pour lui offrir ce qu'elle a besoin et toutes ces choses-là. Et c'est ma femme qui gère. C'est ma femme qui gère les finances. Moi, je fais juste mettre ça sur le compte, puis après, je ne veux rien savoir. De toute façon, j'ai du mal à gérer le compte, anyway. Donc, c'est mieux que ce soit ma femme. Mais soit dit en passant, Mario avait donné de très bons conseils. Je vais essayer d'y réfléchir. Mais c'est ça. Tout ce que vous voyez devant vous, là, présentement, moi-même, c'est pas un clone de mon père. OK? On s'entend là-dessus. Mais je suis proche de mon père. La façon dont j'évolue avec vous, c'est la façon un peu dont mon père évolue auprès des autres. OK? Mon père m'a éduqué de cette façon. Plutôt de façon indirecte, mais c'est ce qui m'a laissé comme éducation. OK? Et donc, j'en reviens à Maria Antonia. Parce que ça passe de génération en génération. Si j'ai regardé indirectement mon père qui travaillait jusqu'à 8 h du soir, il partait à 8 h du matin, il revenait à 8 h du soir, il était fonctionnaire. Hein. Fonctionnaire, normalement, 5 h, t'es parti, en fait, c'est 4 h 30 plutôt. Mais non, mon père, il était plutôt du genre, non, faut que le travail se fasse. C'est pas le temps qui importe, c'est le travail qui soit fait. C'était sa valeur. Et c'est ma valeur aussi, je le retrouve encore une fois dans le travail. Dans le travail, j'ai un quota d'heures, je suis payé en fait au mois, mais j'ai pas d'heures sup. Ma femme voit ça comme des heures sup, moi je peux pas voir ça. Le but du jeu, c'est que j'arrive à fournir ce que le client veut, comme il veut. J'ai un temps d'heures, si ça dépasse un peu, ça doit dépasser un peu, parce que c'est pas moi qui fais les cotations. Et donc, à regarder Maria Antonia va prendre mon éducation, la façon dont je suis. Vous me connaissez la plupart et vous savez un petit peu comment je suis. Je vois Nicole bien rigoler là. Oui, je sais, je sais. Prie pour moi, prie pour moi. Et c'est là que je vois aussi, de toute façon, Marie-Antonia, ça fait quoi? Ça fait depuis l'âge de 6 ans, je crois, que je commence à passer du temps avec elle. Ça fait maintenant 7 ans. 7 ans et ça fait à. Ça fait quoi? Ça fait 4 ans qu'on est. Ouais, ça fait plus de 4 ans qu'on est mariés, merci. Donc, ça fait 4 ans que Maria subit mon éducation indirecte. Et ça fait un petit mini-moi. Et on commence à avoir des traits qui sont de moi. Parce que c'est l'éducation. Ça ne vient pas par les gènes. Ça vient vraiment par l'éducation. Et c'est là que je me dis, oups, je suis en train de faire un mini-moi. Je sais comment je suis. Est-ce que c'est ce que je veux pour mes enfants? Est-ce que c'est ce que je veux pour Marie-Antonia? Je suis sympathique au demeurant, vous le savez. Je suis aimant. Je suis aimable. Ça n'a pas vraiment de l'air, mais bon. Il y en a qui ne me connaissent pas beaucoup à première vue. On va passer du temps ensemble, ne vous inquiétez pas. Mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux donner à Marie-Antonia? Est-ce que c'est l'éducation, mon éducation, qui va passer de génération en génération? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Maria, elle a eu la chance de naître dans une famille chrétienne, chose que moi, j'ai eu la chance de naître dans une famille catholique, quand même. Donc, j'ai eu le minimum syndical, et je me suis converti à l'âge de 35 ou 36 ans, si je me souviens bien, quelque chose de même. Ce n'est pas ce que je veux pour ma fille. Ce que je veux pour ma fille, c'est qu'elle soit chrétienne, mais qu'elle soit vraiment chrétienne, qu'elle soit le véritable modèle qu'on devrait tous suivre et qu'on nous demande de suivre quand on lit la parole de Dieu, à savoir Jésus-Christ. C'est le modèle. Jésus-Christ est la pierre angulaire. c'est lui qu'on doit suivre. Maria, elle va hériter de mon caractère. Le but du jeu, là, c'est que j'approche le plus possible de Jésus-Christ pour qu'elle puisse être Jésus-Christ à son tour. Ok ? Après que notre pasteur Benoît nous ait entretenu de la façon de rechercher la sagesse dans Proverbes, du pouvoir de nos paroles, ça aussi c'est important, de nos relations, et que Mario nous ait enseigné la façon de gérer nos finances, c'est à mon tour de me présenter devant vous pour parler justement de famille. Qu'est-ce que la famille ? Qu'est-ce que Proverbe dit de la famille ? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher de Proverbe pour la famille ? Ok ? Ça va être la job de ce matin. J'espère qu'elle va bien se passer. Cette présentation va se faire en trois points. La première des choses que je vais essayer de voir avec vous, c'est qu'est-ce que le livre des Proverbes nous enseigne concernant l'éducation que nous devons donner en tant que parents, de parents à enfants. Qu'est-ce que je dois transmettre ? Juste le fait que je suis sympathique ou la parole de Dieu ? Pourquoi je dois faire ça ? Le deuxième point, ça va être la relation enfant-parent. Enfant, honorez vos parents. Enfant, obéissez à vos parents. Et le troisième point qu'on verra ensemble, c'est parents-enfants, c'est bien. Mais je vous l'ai dit en entrée de jeu. Merci d'être ma famille spirituelle. Nous sommes une assemblée. Nous veillons les uns sur les autres, nous prenons soin des uns pour les autres. Ok ? Nous avons aussi un rôle à jouer dans l'éducation de nos enfants. C'est pas mon enfant de sang, c'est pas grave. Ma job, c'est d'essayer de l'amener à Christ. On nous demande d'aller à l'extérieur pour évangéliser, mais il faut aussi regarder à l'intérieur pour évangéliser nos enfants. Je l'ai dit et je le répéterai toujours. C'est pas parce que le père ou la mère est chrétien que l'enfant va devenir chrétien. On n'hérite pas de la foi en Jésus-Christ. On choisit cette foi. Donc, pour faire cette petite présentation, je me suis un peu inspiré d'un livre d'un certain Alfred Kuen, qui est un écrivain chrétien. Il fait pas mal de livres. Et justement, lui, il a essayé de faire une concordance thématique du livre des prophètes. Donc, ça vaut ce que ça vaut, c'est assez subjectif en soi quand même. Mais ce que j'ai le plus aimé de son ouvrage, c'est le titre qu'il en a donné. Le titre qu'il a choisi, c'est « L'art de vivre selon Dieu ». C'est vrai. Proverbe nous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de conseils pour justement avoir Christ et Dieu dans notre vie. Marcher sur le bon sentier. Ne pas aller à l'extérieur et à la chute et à la perte. Le livre des Proverbes, c'est un livre de conseils. Mario nous a fait la démonstration la semaine dernière plutôt. Accessoirement, tout ce qu'on parle dedans concernant les finances, c'est vrai. C'est toujours d'actualité. Proverbe, ça a été fait quelque chose comme à 3000 ans, peu, à la louche, 2800 ou 3000 ans. 3000 ans, c'est toujours d'actualité. Pas mal. Pour les relations, pour les paroles, ce que Benoît nous a amené auparavant, toujours d'actualité. À plus forte raison, la famille, toujours d'actualité. Ok ? Donc, et si vous en voulez vraiment la preuve, prenez par exemple Proverbe 1.7, donc le premier chapitre de Proverbe, 1.7 nous dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Ça veut dire ce que ça veut dire. Méditez le livre des Proverbes. Mais avant d'aller un petit peu plus loin, je voudrais faire juste une aparté, comme j'ai l'habitude de faire. Il y a deux petits points que je voudrais soulever auprès de vous. On lit dans Proverbe 1.8, « Mon fils, écoute l'éducation de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ce n'est pas au père à faire l'éducation de l'enfant. Ce n'est pas à la mère de faire l'éducation de l'enfant. C'est aux deux parents de faire l'éducation de l'enfant. Ok ? Ce n'est pas un job mère au foyer. Tu vas t'occuper des enfants, moi je vais aller travailler, puis je te fais confiance pour élever. Non, l'enfant a besoin d'une figure paternelle comme d'une figure maternelle. Ça, c'est le premier point. Et puis les parents, juste en aparté, là, les papas, là, n'allez plus dire « il faut que j'aille travailler, ça ne marche plus ». J'ai essayé, là. Cette excuse-là, elle ne prend plus. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que les filles, comme les garçons, sont concernées. Savez-vous combien de fois Salomon utilise le « mon fils » pour commencer son verset ? Beaucoup, mais 5 fois, 10 fois, 15 fois, plus 23 fois. 23 fois où Salomon dit « mon fils ». Ok, les filles, vous pouvez partir, c'est pas pour vous. Non, je déconne. Les filles sont aussi concernées. Les filles comme les fils sont concernées. Ce n'est pas parce que Salomon s'adresse à « mon fils » que ma fille n'est pas concernée. Ok ? C'est bien important, ça. On éduque les deux enfants, garçons et filles. Pourquoi faire ? Comme ça, pour le plaisir ? Pas vraiment. Le point le plus important que moi je vois, là, premièrement, c'est pour les amener tous les deux à Christ. Il faut qu'elles aient, faut que les deux, garçons et filles, aient la connaissance pour faire leur choix. On ne peut pas leur tourner le bras pour décider s'ils vont suivre Jésus-Christ ou pas. Mais nous, on peut leur donner les cartes en main, la connaissance, pour faire un judicieux choix. D'accord ? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est encore plus important. Je pense que je vois trois générations ici. Quoique, il me semble qu'il y a peut-être des arrière-grand-mères par là. Pas convaincu. Arrière-grand-mère ?
Ouais.
Quatre générations. Il y a dans cette salle quatre générations. Arrière-grand-mère, grand-mère, parents, enfants. Si on n'éduque pas nos enfants, garçons comme filles, où va être la prochaine génération ? C'est important qu'on diffuse le message à nos enfants en particulier, pour préparer déjà la prochaine génération, que ce soit à Saint-Léonard ou partout dans le monde. Je ferme cet aparté, il y en aura d'autres, rassurez-vous. J'essaie de m'y retrouver. Donc, en tant que parents, nous devons éduquer nos enfants. Ça, c'est la règle de base. Si l'école enseigne les mathématiques, l'histoire et même les sciences, sujet un peu polémique, c'est à nous de parents de montrer à nos enfants comment évoluer dans ce monde. On peut les laisser dans la rue, commencer à se laisser à se faire tout seul, entrer dans des gangs, whatever. Ou alors on peut les chapeauter, les garder précieusement, comme une belle petite pierre là, dans une chambre fermée, simplement. Ça ne va pas le faire non plus. Il faut savoir élever nos enfants de la bonne manière. Mais c'est là que le bât blesse. Le comportement de l'enfant doit être dicté par notre façon d'agir. Ok ? Et c'est là que le bât blesse. Agissons-nous de façon correcte. D'une façon chrétienne, lorsque nous sommes hors de cette assemblée. Devant vous, je suis un homme. Dans la voiture, j'en suis un autre. Est-ce qu'on garde le même comportement ? Est-ce qu'on est toujours avec Christ toute la semaine ? Là, je parle surtout aux parents. Ok ? C'est bien important. mais je parle aussi aux autres. Parce que votre façon d'agir à l'extérieur de l'assemblée, c'est un peu de l'évangélisation quelque part. Si les non-chrétiens vous regardent en train de faire, je ne sais pas quelle absurdité, griller les feux rouges, les stops, rouler comme un fou à 80 en plein centre-ville, ils vont se dire, surtout mettez pas un poisson derrière, parce que sinon là, on est foutu. Là, on est vraiment barré, là c'est fini, votre évangélisation, là vous pouvez faire une croix, et puis la nôtre aussi. Ok ? Sommes-nous ce que nous sommes dans cette assemblée ? Premier point à réfléchir. Comment évoluons-nous avec notre épouse, notre époux à la maison ? Ça, c'est très important. Parce qu'on fait ça devant le regard des enfants. Ma femme me reprend très souvent là-dessus. Comment on présente, comment on interagit avec nos enfants devant eux, vis-à-vis de notre époux, notre épouse ? On peut être les saints devant dans cette assemblée et à la maison, une fois que la porte est claquée, devenir un véritable monstre. Malheureusement, ça se peut. Faisons attention à notre attitude. Faisons attention à notre façon, notre comportement. Encore plus devant les enfants. Parce que malheureusement, les enfants vont recopier ça. Et ça, c'est une vérité universelle. Il n'y a pas que pour les chrétiens. Malheureusement, j'ai vu mon cousin divorcer et il avait fait absolument la même chose que mon oncle. La même chose, il a trouvé une femme qui n'était pas pour lui. Avec toutes les conséquences qui s'en suivent. Il a répliqué absolument la même chose. Je n'ai pas été compté le nombre d'années où il était marié ou quoi que ce soit. Okay, on ne va pas faire des comparatifs non plus assez bizarres. Mais c'est ce qu'il a fait. Si nous sommes une famille aimante, nos enfants vont faire aussi une famille aimante. Si nous sommes une famille, non pas violente, mais à force de crier, élever la voix, les enfants aussi vont élever la voix. Parce qu'ils vont trouver ça tout à fait normal. Notre comportement est très très important dans l'éducation de nos enfants. Prenons le temps de jouer aussi avec nos enfants. Surtout pour les papas, on est souvent occupés. Mais ça fait du bien de passer du temps avec nos enfants. Jouer, quitte à jouer à Lego ou Playmobil, whatever. Pour les garçons, c'est super Playmobil, hein, je dis ça. J'en avais acheté beaucoup, mais ma fille, elle n'est pas Playmobil. Je l'ai acheté pour moi, mais ça, c'est... Donc, pour une petite conclusion, notre comportement, bon ou mauvais, influence nos enfants. Et il ne s'agit pas d'un problème chrétien, mais global, comme je l'ai dit. Ce qu'ils voient, verront et auront vu faire à la maison, ils reproduiront inconsciemment, parce qu'ils trouveront ça normal. C'est là que je me dis, en tant que père, nos enfants ne seraient-ils pas une bénédiction déguisée ? Dans mon cas, oui, je ne sais pas pour vous, réfléchissez un petit peu à ça, votre comportement versus... Moi, j'ai eu la chance d'avoir un gros package quand je me suis marié. J'ai eu une femme, une fille et une belle-mère. Tout ça dans la maison. C'est pas pire, comme ça je suis tranquille. Je travaille à ma sanctification, mais pas à peu près là. Les premiers mois étaient légèrement difficiles, mais après, ça se tasse. Ça devient bon. Mais c'est vrai que c'est une bénédiction déguisée, quelque part. Si on revient à Proverbe, parce que le but du jeu, c'est de coller ça à Proverbe. Proverbe 20:11 nous dit « L'enfant se fait déjà connaître par sa manière d'agir. On devine si sa conduite sera pure et droite. » La question, c'est « Que devons-nous faire lorsque l'enfant ne veut rien entendre ?» Qu'il n'obéit pas. Qu'il ne veut pas aller dans la bonne direction. La réponse, on peut la trouver éventuellement dans Proverbe 22:15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Le bâton de la discipline l'éloignera de lui. Le bâton de la discipline. Métaphore. OK? Métaphore. Ici, c'est une métaphore. OK? C'est-à-dire la discipline. C'est comme l'épée de la justice. OK? On va aller voir le tribunal avec l'épée de la justice. Ouais, ouais, on ne va pas aller découper du monde avec une épée. Non, c'est une image. OK? Bien important. Mais j'aimerais aussi citer l'autre verset, le proverbe 23:13, qui dit « Ne refuse pas de corriger l'enfant. Si tu le frappes avec un bâton, il ne mourra pas. » Ça dépend de la façon dont vous frappez. Hein. Tout est relatif aussi là-dessus. Bon. Mais ce que je veux dire ici, c'est que pour éduquer votre enfant, là, n'allez pas le battre, OK? Ça, je veux que ce soit clair, net, franc, précis, direct, on est enregistré. Hein? Je ne vous ai pas dit d'aller frapper votre enfant avec un bâton. Ce n'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que vous pouvez le punir, le corriger. OK? Il y a un comment, il y a un comment. Je pourrais dire que je pense que la plupart d'entre nous, là, de ma génération et un peu plus jeune, là, on a tous connu la claque aux fesses, la fessée. Hein? Même mon frère a encore ce qu'on appelle un martinet. Un martinet, c'est un morceau de bois avec des lanières en cuir. Ah, ça c'est... J'ai été élevé avec ça. Ouais, ouais. Philippe. J'ai été élevé avec le martinet. Ça fait mal. Mais déjà, à la base, c'est dissuasif. OK ? Quand vous voyez votre mère arriver avec ça dans les mains, vous restez pas là. Vous planquez, vous sauvez, vous faites ce que vous voulez, mais vous restez pas là. Mais c'est dissuasif. OK ? Et ça corrige. N'allez pas tout acheter un martinet, ça marche plus. Je ne sais même pas si ça existe ici au Québec. Sans compter que maintenant, dans certains États, même la fessée, ça devient interdit. Ah ouais, je ne sais pas comment on va faire. Mais la bonne nouvelle, l'excellente nouvelle, pour tout le monde, hein Maria, pour tout le monde, c'est qu'il y a beaucoup mieux que la fessée, que le bâton, que le martinet. Il y a quelque chose qui fait super mouche, le téléphone cellulaire ou la tablette, suivant l'âge de l'enfant. Si l'enfant n'écoute pas, vous pouvez simplement lui retirer ça. Vous allez voir, ça va faire le même effet que le martinet. Ça, de ce côté-là, même pas, à la place de sauver, ce qu'ils vont faire, c'est juste qu'ils vont dire « S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, j'en ferai plus !» Soyez ferme aussi. Je fais une petite aparté ici. Soyez ferme. Si vous menacez votre enfant avec une punition, donnez-la la prochaine fois. Je rigole pas là-dessus. Donnez-la. Pour la simple et bonne raison que si vous le donnez pas, l'enfant il va dire « Des menaces, des menaces, des menaces. Vas-y, cause toujours, tu m'intéresses. » Là, ça va venir après dans le deuxième passage. Les enfants obéissent à vos parents. Si vous ne respectez pas ce que vous dites vis-à-vis de l'enfant, vous allez perdre toute votre crédibilité. Ça marche pour les punitions. Ça marche aussi pour les promesses. C'est bien important. Si vous promettez quelque chose à votre enfant, mettez pas de deadline. Mettez pas de temps, la semaine prochaine, la semaine d'après. Non, 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 non. Vous lui dites, OK, tu auras ça, en temps et lieu. Mais respectez votre promesse. À date, je m'en tire plutôt bien pour les promesses. Donc ça, c'est... Autre chose, modérez vos punitions. OK ? Il faut modérer vos punitions. Si l'enfant il dit une grossièreté puis que vous y allez assez fort, qu'est-ce que vous allez faire si jamais il se met à voler ? Il faut relativiser aussi. Et puis il faut surtout modérer dans le sens que Pour ça, je vous le donne, là. J'ai eu un super conseil d'une personne qui me tient à cœur, qui est chrétienne aussi, et qui me disait que quand un de ses enfants faisait une bêtise, on s'entend une assez grosse bêtise, ce qu'il faisait, c'est que lui, il sortait, il allait faire un tour, il allait se calmer. Ça fait rire, mais c'est aussi bon pour l'enfant d'aller faire un tour et de se calmer, là. N'agissez pas sur le coup. Parce qu'un geste, ça va vite. Et surtout les paroles aussi. Et les paroles peuvent aussi blesser que les gestes. Ok ? Pour être français, moi, la claque, elle déclenche assez vite. J'ai un autre bon conseil pour vous, frappez pas les enfants des autres. Comme ça, vous êtes tranquille. On en reparle. Donc voilà. L'autre question que vous pourriez me poser, c'est « Ok, pourquoi on doit éduquer nos enfants ?» Nous, personnellement, on s'est fait tout seul. Moi, je me suis fait tout seul dans ma cité HLM, là, avec les copains. Là, j'ai fait mon éducation, pas de problème. Pas besoin de mes parents, c'est quoi cette affaire ? Pas tout à fait. Comme je l'ai dit précédemment, nous copions inconsciemment le comportement de ceux qui nous sont proches. Bien sûr, les parents, mais là, j'irai aussi un peu décaler vos fréquentations, les fréquentations de vos enfants. Faites attention à ça. Juste petit aparté, là. C'est sûr qu'on n'est pas avec eux à l'école. Ils ne sont pas dans des écoles chrétiennes, ils sont dans des écoles normales pour tout le monde. Et puisque c'est pour tout le monde, on peut trouver de tout. C'est pour ça, encore plus, qu'il faut être dans l'éducation de nos enfants, à passer du temps avec nos enfants, à poser des questions à nos enfants, à savoir si tout se passe bien, s'il n'y a pas de problème à l'école. Vous le verrez. Si vous passez du temps avec votre enfant, vous verrez qu'il y aura un changement de comportement, s'il y a quelque chose qui se passe. Si vous ne passez pas de temps avec vos enfants, vous passerez totalement au travers. Puis là, vous aurez, au dernier moment, la réponse, et ça peut faire mal. Passez du temps avec vos enfants. C'est une richesse, les enfants. C'est une richesse. Proverbe 29, 17 nous dit « Corrige ton fils et il te laissera en repos, il fera tes délices. » Voilà pourquoi on doit éduquer et corriger nos enfants. Un autre conseil, Proverbe 13, 24 nous dit « Il déteste son fils, celui qui ménage son bâton. Celui qui l'aime cherche à le discipliner. » C'est sûr que c'est une tournure de phrase un peu âgée, là, on s'entend, 3000 ans quand même. C'est un peu vieux, mais c'est vrai quand même. Celui qui n'aime pas son enfant ne va pas s'occuper de cet enfant. Il ne va pas donner une éducation. Celui qui aime son enfant va passer du temps avec lui. Je dis lui, ça peut être elle, hein, on s'entend là-dessus. Et c'est important. Passez du temps avec vos enfants. On ne passe jamais assez de temps avec nos enfants. Et enfin, encore une autre aparté, très rapide. C'est ce que Paul disait dans Éphésiens 6, 4 et dans Colossiens 3, 21. Colossiens 3, 21 nous dit « Père, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Passer du temps avec les enfants, c'est bien. Passer trop de temps avec les enfants, c'est peut-être moins bien, c'est peut-être pas le but escompté. Il faut avoir un juste milieu et nous efforcer de limiter la pression sur eux. Nous aimons nos enfants. Plus encore, parce que nous sommes chrétiens et avons cette espérance de rencontrer Jésus-Christ à la fin des temps. C'est notre espérance. Nous voulons aussi que nos enfants soient au rendez-vous divin. Ok ? Nous voulons qu'ils aiment Dieu. Ok ? Ça, c'est le but. C'est le but principal. On amène nos enfants à l'assemblée pour qu'ils puissent entendre Dieu, qu'ils puissent écouter ce que Dieu a fait pour nous, puis qu'ils puissent prendre une décision. Nous voulons bien sûr qu'ils acceptent Christ comme Sauveur et Seigneur. Le problème, c'est que si nous les écœurons, pas dans cette assemblée, rassurez-vous, là. Vous pouvez confier vos enfants à notre équipe, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais si à la maison, vous rabâchez constamment, vous devenez un pharisien. Que pensez-vous que votre enfant va faire? Est-ce qu'il va être pharisien lui aussi? Je ne suis pas convaincu, moi. Honnêtement, là, ça risque beaucoup plus d'avoir l'écœurement et puis de courir. Parce que, un, il n'aura pas compris le message, parce que vous en mettez beaucoup trop. Et deux, il ne va pas pouvoir être au rendez-vous divin. Et ce sera notre faute. Donc le comportement à la maison, c'est bien important. Parler de Dieu à la maison, très très important. Parler trop, ou parler comme un pharisien, je prends cette image, on s'entend, pour dire, celui qui exagère trop, là, fait pas ci, fait pas ça, Dieu a dit... Je pense que l'enfant, il va vite se tanner. On ne parle pas à des adultes. On ne fait pas l'enseignement d'un adulte, on fait l'enseignement d'un enfant. On ne veut pas écœurer nos enfants. On veut que nos enfants acceptent Christ. On veut que nos enfants soient dans cette assemblée. Ok ? Nous allons maintenant passer au deuxième point. Honore ton père. Alors, petit préambule pour les jeunes qui sont ici. Ce message s'adresse à vous, mais aussi à vous, parents. Parce que je suppose que vous avez encore des parents. Pour la plupart d'entre nous, nous avons encore la chance d'avoir notre père ou notre mère ou les deux. Qui sait ? J'ai la chance d'avoir mon père de 85 ans, quand même. Merci Seigneur. Et nous sommes aussi des enfants. Nous devons aussi honorer nos parents. Même si mon père me tanne de temps en temps, je dois l'honorer. Et je le respecte, bien évidemment. Alors, premièrement, le mot « honorer », qu'est-ce que ça signifie ? Je vous dirais que j'ai eu un peu de mal à comprendre ce que c'était. Très honnêtement, là, travailler dans ma tête. Puis je me suis dit, ok, prenons le contraire, plus familier, déshonorer. Super facile ça. On connaît la définition de déshonorer plutôt que honorer. Déshonorer, c'est quoi ? C'est faire honte, humilier, jeter l'opprobre par notre conduite. Déshonorer, c'est mentir, voler, tricher, mal se conduire, être désobéissant, irrespectueux. En bref, tout ce que Dieu a en horreur. Donc si on reprend l'inverse, honorer son père et sa mère, c'est les respecter en parole et en acte. Éprouver sincèrement une appréciation pour leur rôle de parent, les aimer pour ce qu'ils font ou ce qu'ils auront fait pour nous. J'ai trouvé sur un site web que le verbe grec traduit par « honorer » signifie « avoir de la référence, oui, estimer, attacher de la valeur à ». Honorer, c'est respecter non seulement leur mérite, mais aussi leur fonction. Et là, j'extrapole pour le mot « fonction ». Ça se voit souvent, surtout dans les films américains. Il ne faut pas avoir honte du travail de papa. Si papa est boueur, là... Pas avoir honte. Il n'y a pas de sot métier. Il n'y a que de sottes gens. Encore dans les dictons et les proverbes. Et c'est si facile de se rappeler ce qu'ils n'ont pas fait ou voulu pour nous. Ça, c'est vrai. Moi, je me souviens, je voulais avoir un train. Mon père ne me l'a jamais donné. Là. Non, en fait, par contre, je ne me souviens pas le fait que quand j'ai eu besoin de paires de baskets, il était toujours là pour financer et puis tout ça. Non, ça. Il faut avoir un juste milieu. Paul nous dit dans Éphésiens 6, 1 à 3, « Enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Mais pourquoi honorer nos parents ? On est gentil, c'est vrai, poli, sage, travaillant à l'école. On les invite, on leur souhaite la refaite. On les sort de temps en temps, pour les adultes. C'est vrai, ça suffit, là. Faut pas exagérer, là. Hein ? Il faut me rappeler, comme Paul, le premier des 10 commandements donnés par Dieu. Là, je prends la version de Exode 20, 12. « Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Puis s'en suivent bien sûr les 9 autres commandements. Et si on regarde, ils sont tous relatifs à la conduite. Tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas la femme d'un autre, tu ne prendras pas le bien d'un autre, etc. Tout est relatif, les 9 autres sont relatifs aussi à tout ce qui est comportemental. par rapport au premier. Tu honoreras ton père et ta mère. Si tu respectes ton père et ta mère, tu vas respecter aussi autrui. Et c'est ce qu'on doit inculquer. Proverbe 3, 1 à 4 nous dit « Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas, attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. » Obéissons à nos parents. Important. Obéissons à, bien sûr, à Dieu. Et comme on l'a chanté tantôt, merci à Mario pour ce choix judicieux, et qu'on l'a rappelé aussi à la table du Seigneur, merci pasteur. Le plus bel exemple d'obéissance à travers l'univers, j'irais jusque l'univers, c'est Christ, Jésus-Christ. Obéissons comme Jésus-Christ, qui l'a fait pour son Père. Se faisant homme, il est venu parmi nous. Il a été mis à mort pour nos péchés. Il est ressuscité le troisième jour en vainquant la mort. Et il nous offre par son sang précieux notre justification auprès de Dieu. Christ a obéi à son Père jusqu'à la mort pour nous offrir la vie éternelle. Lui, le seul moyen de l'obtenir. On revient toujours à Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on doit enseigner aussi à nos enfants Jésus-Christ. Et un malheur à ceux qui n'écoutent pas ou n'obéissent pas. Alors là, on retrouve beaucoup d'avertissements quant au respect à apporter aux parents. Proverbe 15-20 nous dit « Le fils sage fait la joie de son père et un homme stupide méprise sa mère. » Proverbe 30-17 nous dit « L'œil qui se moque d'un père et qui méprise l'obéissance envers une mère, les corbeaux de la rivière le crèveront et les petits de l'aigle le mangeront. » Ça, c'est assez wow. Proverbe 19-26 nous dit « Celui qui maltraite son père et chasse sa mère est un fils qui se couvre de honte et d'opprobre. » Ça, c'est selon la version Semeur. Proverbe 20-20 nous dit « Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu d'épaisses ténèbres. » Proverbe 17,2 nous dit « Un serviteur avisé domine sur le fils qui fait honte, et il aura une part d'héritage au milieu des frères. » Ce dernier verset-là nous montre aussi comment les Israélites, il y a 2800 ans, et puis ça doit être encore vrai maintenant, considèrent l'honneur beaucoup plus que la filiation par le sang. Et c'est vrai que l'honneur est une valeur rare et sûre. Beaucoup de gens vont aller chercher l'honneur plutôt qu'autre chose. Le chrétien, lui, ne va pas chercher l'honneur, il va chercher juste Jésus-Christ. Aimons nos parents, qu'importe ce qu'ils sont, ce qu'ils ont été, en leur obéissant et en les honorant. Voilà la volonté de Dieu. À ce stade-ci, je voudrais ajouter qu'il nous faut également respecter les aînés. Restez là, les aînés, s'il vous plaît. Proverbe 17,6 nous dit « Les petits-enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. » Ça fait trois générations. À cette époque, on ne vivait pas super vieux. Et avoir trois générations, ça signifie que les enfants écoutaient l'enseignement des parents et ainsi de suite. Et ça s'est reproduit au fur et à mesure. Et le grand-père est super content d'avoir son enfant dans l'assemblée. Quand on a plusieurs générations comme ça d'enfants qui ont accepté Christ parce qu'ils sont venus dans l'assemblée, qu'ils ont écouté Jésus-Christ, qu'ils ont suivi Jésus-Christ, ça fait plaisir à voir. Prendre soin des aînés, c'est l'exemple aussi que les premiers chrétiens ont fait dans Actes 6. À l'époque, les veuves, elles s'étaient écartées parce qu'elles n'avaient plus d'enfants pour s'en occuper. Ok, elles restaient toutes seules, elles allaient mourir. Non, pas tout à fait. Les premiers chrétiens ont pris soin d'elles. Acte 6, je vous rappelle, il y a une petite chicane et c'est là qu'on a introduit les diacres. Vous pourrez aller relire si ça vous intéresse. Nous aussi, honorons nos aînés en prenant soin d'eux. Le troisième point, c'est l'assemblée et notre rôle dans l'éducation de nos enfants. Okay ? Là, je m'adresse à toute l'assemblée, qu'ils soient parents ou pas. Okay ? L'ensemble de l'assemblée. En tant que membres de cette Église, nous nous devons d'éduquer nos enfants, non pas seulement les nôtres de sang, mais tous ceux et celles de l'Assemblée. Je vais vous dire pourquoi, attendez, avant de fulminer ou quoi que ce soit. Pourquoi ? La première chose, pour nos amis africains, ils doivent bien connaître ça, puis on le connaît aussi, veut pas. Il y a un proverbe africain fameux qui dit « Il faut tout un village pour élever un enfant ». Et c'est bien vrai. C'est bien vrai, ça. C'est pas dans la Bible, mais c'est vrai. Et je voudrais remercier aussi, en passant, l'équipe qui s'occupe d'éduquer nos enfants. Et qui a aussi, malheureusement, il y a une autre partie, mais il y a Nicole qui est aussi représentante de ça, pour la pouponnière. Les gens qui passent du temps, vous nous permettez de nous occuper de vos enfants pendant le message, et merci. Et surtout, merci à l'équipe qui s'en occupe. Et merci à l'équipe qui aussi donne un message chrétien aux enfants d'âge un peu plus élevé. N'oublions pas le fameux verset de Matthieu 28:20 qui dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Ok ? Jésus-Christ a dit à qui ? À toutes les nations. Encore plus à nos enfants. Encore plus à nos enfants. Parce que les enfants, c'est la prochaine génération qui reprendra le flambeau. Si on ne s'occupe pas de nos enfants, il n'y aura pas de prochaine génération. Heureusement, Christ a tout prévu. Dieu a tout prévu, il a un plan parfait. Là. Je dois mettre ça absolument, en disant que Dieu a déjà, s'est déjà arrangé pour avoir la prochaine génération. Mais on ne sait pas si elle est ici ou pas. C'est à nous de nous en occuper. Les enfants de notre assemblée aussi sont notre richesse et notre avenir. Une église qui n'a pas d'enfants, c'est une église qui va mourir. On a la chance d'avoir beaucoup, beaucoup d'enfants. Merci Seigneur. On a prié pour ça, on les a. Et il faut qu'on s'en occupe. Tous ensemble. Pas juste une équipe là qui va se dévouer et les autres qui vont rien faire puis qui vont juste applaudir. Non, c'est tous ensemble qu'on s'occupe de nos enfants. Ayons tous à cœur de les aider à connaître Dieu, Jésus-Christ leur Sauveur. Apprenons-leur la même conduite que nous devons avoir. Je le répète, que nous devons avoir aussi cette conduite. L'envie de ressembler à Jésus-Christ. Lisez la parole de Dieu, lisez la Bible, et vous verrez que ça parle simplement de Jésus-Christ et de la façon dont nous devons nous comporter. La question, c'est comment ? C'est vrai. La première des choses, bien sûr, dans la douceur et le respect. Merci. Les versets qui parlent de battre les enfants ne doivent pas être appliqués dans ce concept. OK ? Comme je l'ai répété, on ne frappe pas les enfants des autres. OK ? Gardez ça en tête, ça va bien se passer. On peut bien sûr les reprendre gentiment, verbalement et d'une façon pédagogique. OK ? Ça, c'est bien important. Et surtout, de grâce, par pitié. Pas pour rien. Reprenez pas les enfants pour rien. OK ? Un enfant qui court, c'est normal. Bon. Un enfant qui court pendant le message, c'est beaucoup moins normal. On s'entend là-dessus. Mais si l'enfant court et joue pendant qu'on fait de la communion fraternelle, laissez-le. C'est un enfant. Souvenez-vous que vous avez été aussi enfant. OK ? C'est bien important. L'enfant doit vivre dans notre assemblée. Il faut qu'on le laisse vivre aussi. Alors, si vous avez matière à reprendre un enfant, que ce soit véritablement, entre guillemets, biblique, s'il frappe quelqu'un, c'est sûr, il faut le reprendre. OK ? S'il fait une bêtise, on va le reprendre, mais avec douceur, gentillesse, de façon pédagogique. On n'est pas là pour martyriser les enfants. On est là pour les éduquer. à la manière du Christ. Notre choix et notre richesse, dans notre assemblée de Saint-Léonard, et là je parle vraiment de cette assemblée-ci, c'est notre multiculturalisme. Ok ? Québécois, Roumains, Brésiliens, Camerounais, c'est bien ça ? Il y a un Togolais là-bas, il y a des Haïtiens bien sûr, Français, hein, et puis il y a des Africains aussi là-bas. On a tous un background différent. On a tous été élevés d'une façon différente, on a des cultures différentes. Ok ? Et la façon de faire pour élever nos enfants d'une manière uniforme et d'une manière juste, c'est de respecter le modèle de Christ. Si nous faisons tous, chacun, notre effort pour ressembler de plus en plus à Christ, les enfants à la maison vont récupérer ce comportement aussi. Et quand ils vont être dans l'assemblée, on va tous avoir le même comportement. Et alors là, ça va être ce qu'on va avoir à la fin des temps. Voilà, c'est ça. C'est... Pour en finir, il faut que je me dépêche un petit peu, là. Je suis juste sur le bord. Pour finir ce point concernant l'Assemblée, je lirai ceci. Mais ayons le même discours, la même vision qui est celle de Dieu pour élever nos enfants. Car nous devons les aider à décider s'ils suivront ou non l'Éternel notre Dieu. S'ils décidaient de ne pas le suivre, alors que ce soit par connaissance et pas par dégoût, le comportement ne doit pas être pris pour des broutilles. Ok ? Si vous reprenez l'enfant, il faut que ce soit quelque chose. On ne veut pas les écœurer. Que ce soit à la maison avec notre enseignement, ou que ce soit ici. On ne veut pas les écœurer. On veut juste leur donner ce qu'ils ont à savoir sur Dieu et sur Christ. En conclusion, ces proverbes sont donc là pour nous instruire et nous mettre en garde. On l'a vu, là, c'est l'enfant qui ne respecte pas le parent, là, c'est assez fort. Mais c'est pour nous mettre en garde, non contre la justice des hommes, mais contre la justice de Dieu. Si nous suivons la parole de Dieu, nous acceptons Christ et nous irons au paradis. Si nous ne suivons pas la voie, ce sera la chute. Notre but, après avoir accepté Christ comme unique Seigneur et Sauveur, c'est de changer de vie, de comportement, de caractère. Ça, je le dis aussi pour moi, rassurez-vous. Et Dieu est assez miséricordieux pour nous aider, avec l'aide du Saint-Esprit, pour œuvrer à cette métamorphose. Si Dieu est capable de changer une chenille en papillon, plus forte raison, il va nous changer via le Saint-Esprit, dans notre comportement. Mais il faut aussi savoir écouter le Saint-Esprit. Il faut aussi savoir prendre le temps de lire la parole de Dieu. Celui qui ne lit pas la parole de Dieu, qui vient juste le dimanche pour écouter le message, c'est un commencement. Mais il lui manque pas mal une béquille, là. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Rappelons-nous-le dans 1 Thessaloniciens 4, 3. Notre comportement est primordial dans l'éducation de nos enfants, comme il l'est dans l'évangélisation du monde. Ce que nous disons et faisons est copié par mimétisme. Fais comme je dis, mais pas comme je fais. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Totalement improductif, voire même dévastateur. Si j'apprends à mon enfant à écouter Dieu, à aimer Dieu, et que moi, à la maison, je passe mon temps à boire ou à faire autre chose qu'écouter Dieu, je ne pense pas que l'enfant va suivre Dieu. Il y a de fortes doutes. Mais la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Nous avons le devoir, en tant que parents et membres de cette assemblée, d'éduquer nos enfants selon le modèle de Christ. Je reviens encore une fois et dernière fois à Matthieu 28, 19, 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Si nous devons évangéliser le monde, encore plus serons-nous motivés à évangéliser nos enfants. Ce n'est pas un parent chrétien qui permet à un enfant d'être sauvé. Ce n'est pas parce que votre enfant va venir avec vous à longueur de temps dans cette assemblée qu'il va être sauvé. Si on a un mauvais comportement à la maison, c'est juste quoi? Une heure et demie? Allez, on va dire, allez, à la grande louche, 2 heures. 2 heures dans une assemblée avec des chrétiens. 24, 48, 72... 186 heures, c'est pas ça? Dans une semaine? Quelque chose de même. Il reste beaucoup de temps pour l'enfant pour ne pas écouter la parole. Ayez un bon comportement. Ayons que j'ai un bon comportement pour élever ma fille. Ok? Parce que nous aimons nos enfants, notre famille biologique et notre famille spirituelle, cela vaut largement la peine. Prions. Eh bien, bon et tendre Père, merci, merci premièrement de nous permettre d'être dans cette assemblée de Saint-Léonard que tu as bâtie toi-même, Seigneur. Nous ne sommes que des instruments pour toi. Seigneur, merci, merci pour ce message. J'ose espérer ne pas avoir joué le pharisien, Seigneur, en écœurant le monde à suivre le modèle de ton Fils Jésus-Christ. Parce que là, j'ai le droit d'écœurer le monde. Parce que c'est la voie, la seule voie, la vraie voie que nous devons suivre, Seigneur, pour pouvoir élever nos enfants à ta façon. Ils sont déjà avec le monde, ils sont déjà dans des écoles, Seigneur. Ils sont déjà des amis non chrétiens. Permets qu'on puisse les éduquer afin qu'ils puissent te connaître. Et surtout, Seigneur, je te prie pour chacun de nos enfants et des enfants qui viendront. Accepte-les. Prépare-les à ce qu'ils puissent accueillir Jésus-Christ dans leur cœur. Permets que chacun d'eux soit sauvé et que nous ayons la joie, l'immense joie, d'avoir plus de 4 générations présentes dans cette assemblée. Donne à chacun le temps d'examiner leur cœur, le temps d'examiner leur comportement. Loin que je ne veux pas les juger, Seigneur, je suis comme eux. Mais donne-nous à cœur de faire plus attention à notre comportement à la maison, afin que nos enfants puissent, dès le début, prendre le bon exemple sur Jésus-Christ et sur Jésus-Christ seul. Permets qu'on puisse les éduquer. Travaille dans nos cœurs afin que nous puissions accepter que d'autres personnes de l'Assemblée puissent éduquer nos enfants. Je sais que ça, c'est un point difficile, mais c'est un point tellement vrai. On n'aime pas que les gens viennent nous dire quoi faire avec nos enfants. Ça, c'est vrai dans le monde, pas dans une assemblée. Dans une assemblée, nous sommes tous là pour Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Nous ne pouvons pas être n'importe quoi. Nous ne pouvons pas être des électrons qui partent par-ci, par-là. Nous devons être un seul corps pour Jésus-Christ et pour ta gloire, Seigneur. Et je te prie dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Dieu a une armée qui s'élève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour la Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne, entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève Dieu, ouvre ta bouche. à l'agneau de Dieu, soit la gloire dans les lieux très hauts, à l'agneau de Dieu, la victoire, vive notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre la bouche, Dieu veut parler, Dieu veut parler. Amen. Donc je vous souhaite une bonne semaine à tous et que le Seigneur vous bénisse cette semaine.